Chapitre 11 Obsession. Le drapier fut plusieurs jours sans sortir de chez lui, le cœur navré de cette mort tragique qu'il avait causée pour des offenses assez légères et par un moyen condamnable et damnable, en ce monde comme en l'autre. Il y avait des instants où il considérait tout cela comme un rêve et n'eût été sans pourpoint oublié sur l'herbe, témoin irrécusable qui brillait par son absence, il eût démenti l'exactitude de sa mémoire. Un soir, enfin, il voulut se brûler les yeux à l'évidence et se rendit au pré au clair comme pour s'y promener. Sa vue se troubla en reconnaissant le jeu de boules où le duel avait eu lieu, et il fut obligé de s'asseoir. Des procureurs y jouaient, comme c'est leur usage avant souper. Et Eustache, dès que le brouillard qui couvrait ses yeux se fut dissipé, crut distinguer sur le terrain uni entre les pieds écartés de l'un d'eux une large plaque de sang. Il se leva convulsivement et pressa sa marche pour sortir de la promenade, ayant toujours devant les yeux la plaque de sang qui, gardant sa forme, se posait sur tous les objets où son regard s'arrêtait en passant, comme ces taches livides qu'on voit longtemps voltiger autour de soi quand on a fixé les yeux sur le soleil. En revenant chez lui, il crut s'apercevoir qu'on l'avait suivi. Alors seulement, il songea que des gens de l'hôtel de la Reine Marguerite, devant lequel il avait passé l'autre matin et ce soir-là même, l'avaient peut-être reconnu. Et, quoique les lois sur le duel ne fussent point à cette époque exécutées à la rigueur, il réfléchit qu'on pouvait fort bien juger à propos de faire pendre un pauvre marchand pour l'enseignement des gens de cour auxquels on n'osait point alors s'attaquer comme on le fit plus tard. Ces pensées et plusieurs autres lui procurèrent une nuit fort agitée. Il ne pouvait fermer l'œil un instant sans voir mille gibets lui montrer les poings, de chacun desquels pendait au bout d'une corde un mort qui se tordait de rire horriblement, ou un squelette dont les côtes se dessinaient avec netteté sur la large face de la lune. Mais une idée heureuse vint balayer toutes ces visions fourchues. Eustache se ressouvint du lieutenant civil, vieille pratique de son beau-père, et qui lui avait déjà fait un accueil assez bienveillant. Et elle se promit d'aller le lendemain le trouver et de se confier entièrement à lui, persuadée qu'il le protégerait au moins en considération de Javotte, qu'il avait vu et caressé toute petite, et de maître Goubard, dont il faisait grande estime. Le pauvre marchand s'endormit enfin et reposa jusqu'au matin sur l'oreiller de cette bonne résolution. Le lendemain, vers 9 heures, il frappait à la porte du magistrat. Le valet de chambre, supposant qu'il venait pour prendre mesure d'habits ou pour proposer quelque achat, l'introduisit aussitôt près de son maître qui, à demi renversé dans un grand fauteuil à oreillette, faisait une lecture réjouissante. Il tenait à la main l'ancien poème de Merlin Coquet et se délectait singulièrement du récit des prouesses de Balde, le vaillant prototype de Pantagruel, et plus encore des subtilités et larronneries sans égale de Saint-Gard, ce grotesque patron sur lequel notre Panurge se modela si heureusement. Maître Chevassu en était à l'histoire des moutons dont Saint-Gard débarrasse la nef en jetant à la mer celui qui l'a payé et que tous les autres suivent aussitôt. Quand il s'aperçut de la visite qui lui venait et, posant le livre sur une table, se tourna vers son drapier d'un air de belle humeur. Il le questionna sur la santé de sa femme et de son beau-père et lui fit toutes sortes de plaisanterie banale touchant son nouvel état de marié. Le jeune homme prit occasion de ce propos pour en venir à son aventure et, Ayant récité toute la suite de sa querelle avec l'arquebusier, encouragé par l'air paterne du magistrat, lui fit aussi l'aveu du triste dénouement qu'elle avait eu. L'autre le regarda avec le même étonnement que s'il eût été le bon géant fracasse de son livre, ou le fidèle Falquet qui avait l'arrière-train d'un lévrier au lieu de Maître Eustache Boutroux marchant sous les piliers, car, encore qu'il eût appris déjà que l'on soupçonnait le dit Eustache, il n'avait pu donner la moindre créance à ce rapport. Et ce fait d'armes d'une épée clouant contre terre un soldat du roi, attribué à un courteau de boutique aux deux tailles comme Gribouille ou Triboulet. Mais quand il ne put douter davantage du fait, il assura le pauvre drapier qu'il ferait de tout son pouvoir pour assourdir la chose et pour dépister de sa trace les gens de justice, lui promettant, pourvu que les témoins ne l'accusassent point, qu'il pourrait bientôt vivre en repos et franc du collier. Maître Chevassu l'accompagnait même jusqu'à la porte en lui réitérant ses assurances, quand, au moment de prendre humblement congé de lui, Eustache s'avisa de lui appliquer un soufflet à lui effacer la figure. Un soufflet qui fit au magistrat une face mi-partie de rouge et de bleu comme l'écusson de Paris. De quoi il demeura plus étonné qu'un fondeur de cloche, ouvrant la bouche d'un pied ou deux et aussi incapable de parler qu'un poisson privé de sa langue. Le pauvre Eustache fut si épouvanté de cette action qu'il se précipita aux pieds de Maître Chevassu et lui demanda pardon de son irrévérence avec les termes les plus suppliants et les plus piteuses protestations, jurant que c'était quelque mouvement convulsif imprévu où sa volonté n'entrait pour rien et dont il espérait miséricorde de lui comme du bon Dieu. Le vieillard le releva, plus étonné que colère. Mais à peine Eustache fut-il sur un pied qu'il donna du revers de sa main sur l'autre joue un pendant à l'autre soufflet tel que les saints doigts y imprimèrent un bon creux où l'on aurait pu les mouler. Pour cette fois, cela devenait insupportable et Maître Chevassu courut à sa sonnette pour appeler ses gens. Mais le drapier le poursuivit, continuant la danse, ce qui formait une scène singulière, parce qu'à chaque maître soufflet dont il gratifiait son protecteur, le malheureux se confondait en excuses larmoyantes et en supplications étouffées, dont le contraste avec son action était des plus réjouissantes. Mais en vain cherchait-il à s'arrêter dans les élans où sa main l'entraînait, il semblait un enfant qui tient un grand oiseau par une corde attachée à sa patte. L'oiseau tire par tous les coins de sa chambre l'enfant effrayé, qui n'ose le laisser envoler et qui n'a point la force de l'arrêter. Ainsi, le malencontreux Eustache était tiré par sa main à la poursuite du lieutenant civil qui tournait autour des tables et des chaises et sonnait et criait, outré de rage et de souffrance. Enfin, les valets entrèrent, s'emparèrent d'Eustache Boutroux et le jetèrent à bas, étouffant et défaillant. Maître Chevassu, qui ne croyait guère à la magie blanche, ne devait penser autre chose sinon qu'il avait été joué, maltraité par le jeune homme, pour quelque raison qu'il ne pouvait s'expliquer. Aussi fit-il chercher les sergents, auxquels il abandonna son homme sous la double accusation de meurtre en duel et d'outrage manuel à un magistrat dans son propre logis. Eustache ne sortit de sa défaillance qu'au grincement des verrous ouvrant le cachot qu'on lui destinait. « Je suis innocent !» cria-t-il au geôlier qui l'y poussait. « Oh, vertu bleue !» lui répliqua gravement cet homme. « Où donc croyez-vous être ? Nous n'en avons jamais ici que de cela. »